enseignemoi.com.
Enseignemoi.com, le site numéro 1 d'enseignement chrétien.
Le site numéro 1 d'enseignement chrétien.
Enseignemoi.com.
Parce que son peuple périt, faute de connaissances.
Enseignemoi.
Toute la parole de Dieu, sans compromis.
Toute la parole de Dieu, sans compromis.
Et je peux faire ce qu'elle dit que je peux faire. Je vais maintenant entendre l'enseignement de la parole de Dieu. Et je proclame hardiment, mon esprit est ouvert, mon intelligence est réceptive, et mon cœur est prêt à recevoir la semence incorruptible, la parole vivante et permanente de Dieu. Et je ne serai plus jamais le même, plus jamais, plus jamais, plus jamais. Au nom de Jésus, amen. Le titre pour ce matin, c'est choisir ou choisis de réussir là où tu as échoué jusqu'à présent. Et on va prendre pour ça Luc chapitre 5, on va lire ce passage. Comme Jésus se trouvait auprès du lac de Génézareth et que la foule se pressait autour de lui pour entendre la parole de Dieu, il vit au bord du lac deux barques d'où les pêcheurs étaient descendus pour laver leurs filets. Il monta dans l'une de ces barques qui était à Simon et le pria de s'éloigner un peu de terre. Puis il s'assit et de la barque il enseignait la foule. Lorsqu'il eut cessé de parler, il dit à Simon, « Avance en pleine eau et jetez vos filets pour pêcher. » Simon lui répondit, « Maître, nous avons travaillé toute la nuit sans rien prendre, mais sur ta parole je jetterai le filet. » L'ayant jeté, ils prirent une grande quantité de poissons et leur filet se rompait. Ils firent signe à leurs compagnons qui étaient dans l'autre barque de venir les aider. Ils vinrent et ils remplirent les deux barques au point qu'elles enfonçaient. Quand il vit cela, Simon-Pierre tomba aux genoux de Jésus et dit « Seigneur, retire-toi de moi parce que je suis un homme pécheur. » Car l'épouvante l'avait saisi, lui et tous ceux qui étaient avec lui, à cause de la pêche qu'ils avaient faite. Il en était de même de Jacques et de Jean, fils de Zébédée, les associés de Simon. Alors Jésus dit à Simon, « Ne crains point, désormais tu seras pêcheur d'hommes. » Et ayant ramené les barques à terre, ils laissèrent tout et le suivirent. Beaucoup connaissent cette histoire, vous avez déjà entendu des prédications dessus, vous avez déjà entendu des interprétations. On souligne souvent, on souligne un certain nombre de choses. Le fait que bien les hommes ont essayé à leur façon, et quand on fait à la façon de Jésus, eh bien ça va mieux. Mais j'aimerais que ce matin, bien sûr je ne vais pas dire le contraire de ça, je suis toujours d'accord avec ce principe, que la façon de Dieu est meilleure que la nôtre. Mais j'aimerais surtout insister ce matin sur la façon dont Jésus s'y prend pour nous encourager. Il n'est pas venu premièrement, pour faire des reproches à Simon. Il n'est pas venu pour se moquer de lui. Combien il était maladroit, combien il était un mauvais pêcheur. Combien, tu vois bien maintenant, hein, tu croyais être un spécialiste et tu n'as pas réussi. Nous avons dans notre propre vie des échecs. Et Dieu n'est pas dans ces échecs. Tout ce que Dieu fait réussit. Vous êtes d'accord avec ça? On parle des fois de succès, on dit oui, mais il n'y a pas que des succès dans la vie. Mais il nous faut comprendre et réaliser, même si c'est dur à l'admettre, que les succès, c'est quand nous agissons selon Dieu. Et les échecs ne proviennent aucunement de Dieu parce qu'il ne sait pas échouer. C'est quelque chose de simple à dire, mais qu'il nous faut méditer un petit peu. Il ne sait pas échouer. Ce n'est pas prévu pour lui. Il n'a jamais prévu pour lui-même que quelque chose ne marche pas. Dieu n'a jamais dit « je vais essayer ». Il dit et la chose arrive. Et il n'a jamais dit « je vais essayer de voir si ça marche ». Je vais essayer de voir est-ce qu'on va y arriver. Et dans notre vie aussi, beaucoup de gens courent après les échecs, les succès. Il y a certains, je suis allé trop vite. Beaucoup de gens courent après le succès, mais certains, à cause des échecs qu'ils ont connus, ils s'installent dans l'échec. Et ils s'y installent et ils ont développé comme un style de vie. En anglais, il y a une expression pour ça, on appelle ça les losers. Losers qui veut dire littéralement en anglais les perdants. Et notre pays était dans cette situation. On va parler un peu de notre pays, de son état. Nous avions dans notre pays comme mentalité dominante à un moment, la mentalité de l'échec. C'est un monsieur Pierre de Coubertin qui a eu une grande influence sur notre pays. Je lui en veux un peu pour ça, parce qu'il a lancé ce slogan des Jeux Olympiques, l'important c'est de participer. Et ce slogan nous a animé notre pays pendant des décennies. On était content de participer. On n'était pas toujours parmi les meilleurs, mais on était content de participer. Et je dois dire que c'est le monde, mais il y a eu des gens qui ont commencé à en avoir assez et qui ont fait ce qu'il fallait, et ça doit être une leçon pour nous. Comme j'ai dit déjà, nous ne voulons pas envier le monde et ses succès et dire « Oh Seigneur, si seulement on était comme eux ». Mais nous devons, quand nous les voyons réussir dans un domaine, devons nous demander comment ça se fait qu'ils réussissent. Quels sont les principes qu'ils ont appliqués qui fait qu'ils réussissent sans avoir Dieu dans leur vie et que nous connaissons des fois des échecs alors que nous devrions avoir la victoire. Peut-être ce n'est pas une question de connaître le Seigneur ou non, c'est une question d'agir et d'obéir à certaines choses que le Seigneur nous enseigne dans la parole de Dieu. Alors quand l'équipe de France de foot a pu triompher en disant « la victoire est en nous », ce qui est un hold-up d'un slogan qui devrait être chrétien, c'est exactement ce que nous devrions dire en permanence. La victoire est en nous parce que Christ est en nous. Mais ces gens-là, sans avoir Christ, sans avoir Dieu, ils ont découvert un principe qui est important, c'est qu'ils ont commencé à croire en leur capacité, ils ont commencé à croire que c'était possible. Ils n'étaient pas parti favori. Bien sûr, il y a toujours un petit plus pour la nation qui accueille, comme si c'était un avantage, jouer à domicile. Il faut quand même produire quelque chose sur le terrain. Mais l'important, c'est de voir que de certaines équipes qui paraissaient plus fortes, eh bien, elles n'ont pas tenu devant la force de cette volonté de réussir. Et donc, on peut décrier, on peut ne pas être content de toutes ces choses médiatiques, de tous ces débordements qu'il y a, tout l'argent que ça brasse, mais on ne peut pas renier le fait qu'il y a eu un succès. Et pour nous, ça doit nous interpeller, ça doit nous lancer un défi. Moi, je suis de ceux qui aiment relever les défis. Et Dieu, il est comme ça aussi. Parce qu'il voit un monde qui est dans un désastre, mais il n'a pas perdu courage. Et il s'est dit, eh bien, on va lui envoyer quelqu'un. Qui veut y aller? Et Jésus a dit, je suis prêt à faire ta volonté. Je suis prêt à y aller. Je suis prêt à accomplir ta volonté. On ne peut pas dire que la partie était gagnée d'avance, puisque Jésus a accepté de se dépouiller, de ne pas venir dans toute sa puissance de divinité, mais de revêtir un simple homme. Eh bien, la partie n'était pas gagnée d'avance, mais il a triomphé pour nous. Et parce qu'il a triomphé pour nous, parce qu'il a connu l'adversité, parce que nous avons vu que dans la vie de Jésus, il n'y avait jamais d'échec. On pourrait dire, oui, mais quelques-uns, par exemple, n'ont pas été guéris. Quelques-uns n'ont pas reçu. Quand, des fois, il y a des versets qui disent « tous étaient guéris ». Il y a des versets qui disent, par exemple, dans Luc 5, là, les gens venaient en foule pour l'entendre, pour être guéris de leur maladie. Et la puissance du Seigneur se manifestait par des guérisons. Mais nous savons très bien que dans sa ville de Nazareth, on ne l'a pas bien accueilli. Certains ne croyaient pas en lui. On pourrait dire, est-ce que c'est un échec? Lui n'a pas échoué. Les gens n'ont pas reçu ce qu'il avait. Mais on pourrait, par exemple, si nous avons ce matin, si nous avons des gens qui ne connaissent pas le Seigneur dans la salle, et si après mon message, ils ne se convertissent pas à Jésus, quelqu'un pourrait dire, c'est parce que ton message n'était pas assez bon, parce que l'onction n'était pas là, parce que tu n'as pas assez prié, parce que toutes sortes de raisons, vous voyez. On pourrait dire, il y a peut-être une responsabilité chez moi. Mais moi je pense que dans le ministère de Jésus, on ne peut jamais lui faire ce reproche. Comprenez ce que je veux dire? On ne peut jamais dire, Jésus, ce matin-là, tu n'étais pas en forme. Tu n'as pas assez prié. Tu t'es pas assez préparé. L'onction n'était pas assez forte. Si elle était là en permanence, et il nous est dit, la puissance du Seigneur se manifestait, elle était présente, mais certains n'ont pas su recevoir à cause de leur raisonnement. Les gens de Nazareth disaient, mais c'est le fils de Marie, de Joseph, on le connaît. Ils l'ont regardé du point de vue naturel, ils n'ont pas cru qu'ils pouvaient faire ce qu'ils ont entendu dire qu'ils faisaient ailleurs. Donc nous avons besoin de voir que Jésus n'a jamais échoué dans ce qu'il faisait. Et que Dieu aussi veut la réussite. La réussite, et c'est ce que je pense a fait la suite, j'en ai déjà parlé premier dimanche de janvier. On a encore parlé de certaines choses, je pense, avec l'arrivée de Phil Wynne. On parlait d'excellence, de comment Dieu veut nous amener à le servir mieux. Ça doit être notre désir à chacun. Mais ce que j'aimerais dire, c'est que nous pouvons ce matin choisir de réussir quelque part où nous avons échoué jusqu'à présent. Je pense aux jeunes aussi. Vous avez peut-être à l'école, vous avez des matières, vous êtes très fort, et il y en a d'autres où ça ne marche pas bien. Ou peut-être ça ne marche pas du tout à l'école. Peut-être vous n'êtes pas bon à l'école, vous avez du mal dans la lecture, vous avez du mal dans les études. Par contre, vous êtes peut-être très habile dans d'autres domaines, manuels, artistiques ou d'autres choses. Donc, c'est bien d'avoir des endroits où on est fort, où on est satisfait. Là, c'est un endroit où je suis à l'aise. Ça, c'est un domaine, ça, c'est mon domaine. C'est bien. Mais j'aimerais aussi qu'on ne se limite pas, mais qu'on accepte de relever le défi, choisir de réussir quelque part où jusqu'à présent, on n'a pas réussi. Et vous savez, c'est que assez rapidement, chacun de nous est catalogué. Chacun de nous. Quand vous grandissez déjà, beaucoup de gens font cette erreur. Nous essayons autant que possible, en tant que parents, de ne pas le faire, de ne pas cataloguer nos enfants. Par exemple, en ce qui concerne les choses scolaires, on dit facilement, lui c'est, ou elle, c'est un matheux. Voilà. On les catalogue, on dit, c'est les mathématiques, ça c'est son point fort. Là, il est fort. Mais par contre, le français, pas tellement. Un autre sera littéraire, un autre sera manuel. Et à cause de ça, de certaines prédispositions qu'on voit, trop rapidement, on colle une étiquette et on enferme les enfants. Et après, ça fait des gens qui sont enfermés. Peut-être des gens qui auraient pu faire une carrière ailleurs, et je ne veux pas mépriser des travaux, des emplois qui seraient plus manuels. Ce n'est pas du tout mon sens. Mais par exemple, je connais dans ma famille, bien, c'était des boulangers. Alors, les fils, qu'est-ce qu'ils ont appris? Ils ont appris boulanger. Leurs parents ne leur ont pas donné autre chose que simplement d'apprendre ce que eux-mêmes ils avaient, parce qu'ils pensaient bon ben il y en a au moins un qui va reprendre l'affaire familiale ou quelque chose comme ça. Eh bien, les deux personnes qui étaient boulangers de formation, tous les deux ont fait des cours du soir et tous les deux sont devenus ingénieurs. Hein, était chez Thomson pendant des années, il voyageait tout le temps, il était à Moscou, au Mexique et ailleurs. Et sa formation, au départ, était boulanger. Donc, c'est bien qu'il ait été boulanger. Mais je veux dire, il n'aurait pas été heureux dans sa vie de boulanger, sachant qu'il y avait des aspirations, il y avait des désirs de faire autre chose. Et donc, c'est ça qui est important pour nous. Ailleurs, eh bien, des fois, à l'inverse, dans des familles, c'est souvent le cas, il y a des familles où on reproduit aussi. Chez les familles de médecins, eh bien, on voit que souvent il y a des enfants qui suivent aussi dans la médecine. Eh bien, ils sont pas toujours là où le Seigneur les veut et là où ils seront heureux. Peut-être ils pensent même pas à ce que Dieu veut pour eux. Mais pour nous, première chose à faire, c'est de nous dire, est-ce que j'ai été d'une façon ou d'une autre enfermé, mis dans une boîte, que ça soit maintenant naturellement ou spirituellement. Est-ce que je suis limité? Si je suis limité, pourquoi? On peut alors, si je suis limité, c'est la faute des autres. Hein? C'est parce que mes parents m'ont obligé ceci, cela. C'est parce que dans l'église, on m'a jamais donné la position que j'aurais souhaité. C'est parce que on peut trouver toutes ces raisons, mais je dis la première des raisons pour lesquelles je ne peux pas faire ce que Dieu veut que je fasse ou je ne peux pas faire ce que je désire faire, c'est dans ma tête. C'est que je pense échouer dans un domaine. Je pense que je ne peux pas réussir dans ce domaine. Alors, peux-tu espérer encore? Eh bien, moi, je dis, Pierre était quelqu'un qui allait à la pêche. C'était son domaine. On peut pas dire que c'était un échec permanent. Sinon, ça fait longtemps qu'il n'aurait même plus eu sa barque et ses associés. Il n'aurait même plus été dans le commerce de la pêche. C'était une nuit qu'il a rien attrapé. Faut pas non plus qu'on ait la fausse idée que Pierre n'attrapait jamais rien. Mais le jour où Jésus est venu, ce jour-là, ils ont attrapé du poisson. Non, c'était cette nuit-là qu'ils n'ont rien attrapé. D'accord? Il ne nous est pas dit dans la Bible que Pierre n'avait jamais réussi. Et il a fallu que Jésus vienne pour qu'enfin il attrape du poisson. Alors, peut-être c'était évident pour vous, mais moi j'y ai pensé récemment en me disant, mais oui, mais c'était particulier. Nous avons travaillé toute la nuit. Pour nous, travailler la nuit symboliquement, ça peut être l'inverse de ce que c'était pour le pêcheur. Pour le pêcheur, travailler la nuit, ça voulait dire la nuit, ça marche mieux que le jour. Mais pour nous, c'est des fois un peu l'inverse. Quand on parle de la nuit, ça veut dire l'heure sombre, l'heure difficile. Et Jésus a dit, la nuit vient où personne ne peut travailler. Mais il nous faut travailler tant que nous sommes encore en jour. Et donc ici, ce qui est important pour moi, c'est que avant cet épisode de la pêche miraculeuse, il y a autre chose qui s'est passée. Regardez avec moi, il nous est dit, Jésus se trouvait auprès du lac de Génézaret. La foule se pressait autour de lui pour entendre la parole de Dieu. Donc il y avait déjà quelque chose d'excellent. Il y avait une très bonne atmosphère, on peut dire, un très bon climat de foi. Il y avait une soif d'entendre la parole de Dieu. Et ça, c'est la première chose, premier ingrédient qui est nécessaire pour que nous voyions un miracle. Autant un miracle comme la pêche miraculeuse, comme un miracle de la transformation dans la vie de quelqu'un. Si vous n'avez pas soif d'entendre la parole de Dieu, d'entendre Dieu vous parler, si vous préférez de cette façon, alors vous aurez du mal à recevoir des choses extraordinaires et des miracles dans votre vie. Premièrement, il vous faut avoir soif. Vous savez, personnellement, j'ai lu la Bible en entier de nombreuses fois. Il y a des passages, on tombe dessus, immédiatement, notre cerveau dit « Ah oui, je connais déjà ça, je sais déjà ça ». Ça démontre qu'on n'a pas une soif de la parole de Dieu, ça montre qu'on est rassasié. On en a « Oui, ça va, ça me suffit, j'ai tout ce qu'il me faut, j'ai déjà ». Et au contraire, donc souvent ce que je demande à Dieu, c'est de me révéler sa parole, de montrer même dans les choses que je connais très bien, même peut-être vous avez Luc 5, ah oui, tout de suite, peut-être vous ne saviez pas de quoi il s'agit, d'autres, tout de suite, ah oui, la pêche miraculeuse. Eh bien, de voir encore des choses dedans pour ce matin et pour notre vie. La foule se pressait. Ils avaient envie d'être le plus près possible de Jésus. Et donc, vous rendez compte quand Jésus a dit, il vous est avantageux que je m'en aille, parce que si je ne m'en vais pas, le Saint-Esprit ne viendra pas. Je ne pourrais pas envoyer le Consolateur. Avant, il fallait se presser pour être près de Jésus. Il n'y avait pas de haut-parleur. Je pense que c'était quand même plus pratique d'être près de lui. On entendait mieux. Et puis, il y avait sa présence. Et même des fois, il y en a qui se jetaient sur lui, ils étaient guéris. Et donc, tout le monde se pressait. Mais ici, il n'est pas dit pour recevoir un miracle, pour entendre la parole de Dieu. Et donc, il demande à Simon de lui prêter sa barque, il monte dedans, le prie de s'éloigner, puis il s'assit. Alors on nous explique techniquement, oui, il y a l'eau qui fait office de réverbération au niveau de la voix, ça porte plus loin. Mais il nous est dit, il enseignait la foule. Et lorsqu'il eut cessé de parler, il dit à Simon, lorsqu'il avait donné son message, et on peut dire lorsqu'il avait enseigné, et semer assez de foi, de confiance dans le cœur de Simon pour qu'il puisse maintenant agir selon la parole. Il avait vaincu dans le cœur de Simon les obstacles. Parce que quand Simon-Pierre ne lui dit pas « Tu nous dis de jeter le filet, mais nous avons travaillé toute la nuit et c'est impossible. » Ce n'est pas ce qu'il dit. Des fois, je trouve qu'on est un peu dur avec les personnages de la Bible parce qu'on leur... On les critique et on dit « Regardez comme ils sont, il avait des objections. » Ce n'est pas vrai. Pierre avait sa réaction naturelle, il dit « Maître, nous avons travaillé toute la nuit sans rien prendre, mais sur ta parole je jetterai le filet. » Vous voyez, pour moi c'est une attitude positive. L'inverse aurait été plus grave. S'il avait dit « Oui Seigneur, on a entendu que tu faisais des miracles et tout ça, mais nous, on est des spécialistes de la pêche et on n'a rien attrapé. » Mais ce n'est pas ce qu'il dit, ce n'est pas ce qu'il fait. Et il dit « Sur ta parole, je jetterai le filet. » Il accepte ce que Jésus lui propose. L'ayant jeté, ils prirent une grande quantité de poissons et leur filet se rompait. Prirent une grande quantité de poissons, ça c'était ce que Jésus avait prévu. Jésus avait prévu, parce que Jésus ne jette pas le filet pour rien attraper. Il avait prévu qu'il y aurait du succès dans cette pêche. Par contre, je ne sais pas comment c'est dans vos Bibles, je sais que les Bibles à la colombe, je crois, ont une nuance là-dedans. J'ai jeté vos filets au pluriel pour pêcher. Et Pierre dit, je jetterai le filet. Pierre n'a pas tout à fait compris. Il se dit, bon, on verra bien ce qui arrive, mais il ne s'attendait pas à cette abondance. Et à cause de ce manque de, comment dire, qu'il n'était pas assez attentif à ce que Jésus avait dit, il avait dit, jetez vos filets pour pêcher. Eh bien, il nous est dit, leur filet se rompait. Ils ont failli de nouveau perdre le bénéfice du miracle de Dieu. Vous voyez, et ça c'est important pour nous aussi. Des fois on ne reçoit pas le miracle de Dieu qu'on attend, mais des fois on entend une partie de ce que Dieu veut faire dans notre vie, on commence à agir, mais on n'est pas tout à fait attentif aux directions, que c'est précis. Et là, ils ont failli perdre, il nous est dit, le filet se rompait. Alors quand un filet se casse, pour moi ça veut dire que les poissons ils retournent dans l'eau. Hein? Et pourtant le miracle avait eu lieu, les poissons étaient là. Donc c'est important pour nous aussi de voir que même lorsque Dieu agit, eh bien on peut de nouveau perdre une bénédiction. Dans l'Apocalypse il y a cette exhortation, qui dit tiens ferme ta couronne, tiens ferme ce que tu as afin que personne ne prenne ta couronne. Donc il y a des choses, c'est pas parce que Dieu nous les a données qu'on ne peut plus jamais les perdre. Et nous avons besoin de veiller à ça. Donc choisis de réussir où tu as échoué jusqu'à présent. Est-ce que tu peux encore espérer? Peut-être tu regardes à la longueur de la nuit, tu dis toute la nuit j'ai travaillé, j'ai rien pris, tant d'années que j'essaye de changer certaines choses, tant d'années j'essaye de ne plus faire ceci ou de faire cela, ne plus avoir telle attitude. Moi je dis que c'est toujours possible avec le Seigneur. Toujours possible. Donc mon conseil pour toi pour l'an 2000, parce que l'an 2000 est à peine avancé, alors on peut maintenant encore croire que Dieu va faire de grandes choses avec nous. Mets ton espoir en Dieu. J'aimerais dire exerce ta foi, mais des fois nous ne sommes même pas là. Nous ne sommes même pas capables d'exercer notre foi parce qu'on n'espère plus rien, on n'attend plus rien. C'était, vous vous rappelez, j'avais donné une fois le message concernant Ruth, la Moabite, et sa belle-mère Naomi. Naomi était dans l'amertume et elle disait, mais qu'est-ce que j'ai encore à espérer de l'Éternel? J'ai plus de fils, mon mari est mort ma vie est terminée. Et pourtant Dieu l'a bénie au travers de Ruth, qui était une femme étrangère, promesse de Dieu, mais qui a su saisir l'occasion. Donc vous voyez, c'est aussi un message pour nous. Quand je dis que des fois dans le monde, on voit qu'il y a de la réussite, c'est un peu l'image de Ruth aussi. Une étrangère, quelqu'un qui est étranger à l'alliance de Dieu, qui réussit dans un domaine, et celle qui fait partie du peuple de Dieu, elle est dans l'amertume. Alors, mets ton espoir en Dieu, prends du temps avec lui, déverse ton cœur, dis-lui ce qui ne va pas, et il va te parler. Il va te dire, mais je n'ai pas fini. Je n'ai pas fini d'être le Dieu des miracles. Je n'ai pas fini de pouvoir agir dans la vie. dans la vie des gens, de transformer des choses. Attends-toi à de grandes choses et commence maintenant. Maintenant, aujourd'hui, attends-toi à de grandes choses. Qu'est-ce qu'une grande chose pour toi? Pour moi, une grande chose, c'est une chose que vraiment dans le naturel, on se dit non, ça c'est pas possible. C'est pas possible. J'ai encore hier soir, j'ai médité, ce que la Bible nous dit, de méditer sur les bontés de l'Éternel, sur certaines choses que Dieu avait fait dans notre vie, aussi déjà un peu plus loin, il y a quelques années. Des choses qui vraiment sont impossibles. On n'aurait jamais pensé que ça puisse se produire et qui se sont réalisées. Pour moi, ça c'est une grande chose. Quelque chose qui mérite un miracle de Dieu, qui a besoin que Dieu intervienne. Le droit au libre choix est un formidable privilège et une responsabilité aussi. Mais ce choix, nous l'avons et Dieu veille à ce qu'il soit respecté. Et c'est tellement important. Vous choisissez ce que vous pensez, vous choisissez ce que vous parlez, vous choisissez où vous dépensez votre argent, vous choisissez quels seront vos amis, ce que vous faites de votre temps. Chaque décision est un choix. Une fois, ça m'a vraiment... C'était Steve Morin qui avait dit ça. Il a dit, mais si vous faites un choix, si vous décidez de faire quelque chose, même si vous n'en êtes pas conscient, mais pour vous, ça veut dire que vous décidez de faire cette chose, vous voulez dire en réalité, cette chose est plus importante qu'une autre chose. Exemple simple. Vous choisissez regarder un film le soir à la télévision. Vous avez décidé que cette chose était importante pour vous, que vous en aviez besoin. On peut le justifier, vous voyez. On peut dire, mais j'ai besoin de me détendre, j'ai besoin de changer les idées. Et je ne dis pas que c'est forcément mauvais. Simplement, si vous n'arrivez jamais à lire la parole de Dieu, si vous n'avez jamais de temps pour prier, alors il faut vous demander, est-ce que consciemment ou inconsciemment, je fais des choix qui sont mauvais? Ça veut dire réellement, je me dis, qu'est-ce qui est maintenant important pour moi? Est-ce que je dois faire telle chose ou est-ce que je dois faire telle autre? Quand je dis important, ça ne veut pas dire je vais vous charger de responsabilité, plus que faire des choses entre guillemets utiles. Vous voyez, des fois il y a des choses que les gens, ça leur semble inutile. Vous savez ce que ça donne comme société, là où on enlève toutes les choses inutiles, il y a des gens détruisent tout ce qui est domaine créatif. Tout disparaît, l'art, musique, tout. Et il n'y a plus que production, il n'y a plus que usine, fabriquer des objets, ça c'est utile, vous voyez. Mais non, mais notre vie ne peut pas être faite que de ça. On n'est pas juste des espèces de robots qu'il faut nourrir et entretenir. Donc une chose qui peut sembler pour un autre inutile peut être très utile pour vous. Quelqu'un qui travaille à l'extérieur n'a peut-être pas besoin forcément le dimanche de se promener en forêt pour s'aérer. Hein, s'il est bûcheron et qu'il est en forêt toute la semaine, il n'a pas besoin de se promener dimanche en forêt, il fera peut-être plutôt autre chose. Il peut visiter un musée ou passer du temps à lire ou faire autre chose, vous voyez. Mais donc, nous devons voir quelles sont les choses dont nous avons besoin. Faites des bons choix. Les bons choix commencent par choisir d'abord les priorités avec Dieu. Si certains de vos choix vous ont mis dans des problèmes, et j'ai dit encore que ce n'y a pas une fatalité. Ce n'est pas « je ne savais pas » et tout à coup je me suis retrouvé. Dieu a mis dans sa parole des conseils. Certains de nos choix du passé nous ont mis dans des problèmes maintenant. Mais que ça ne soit pas une excuse pour dire « maintenant j'y suis, je ne peux plus m'en sortir ». Avec Dieu, il y a toujours possibilité d'un changement. Ne laisse pas Satan voler ton futur. Je trouve qu'il nous a déjà assez volé dans le passé pour qu'on ne lui laisse pas encore voler notre futur. Vous êtes d'accord avec ça? C'est pas parce que tout ce qu'il nous a pris dans le passé, maintenant il faut dire, bon, ben alors il va prendre l'avantage aussi dans le futur. Choisis d'arrêter, ne te lamente pas sur les décisions du passé. Et au contraire, tu peux les surmonter par d'autres choix. Dieu nous donne le vouloir et le faire pour faire de bons choix avec lui. Et c'est ça qui est déterminant pour réussir là où tu as échoué. D'abord, prendre d'autres décisions, choisir d'autres choses, changer des choses. Prenez du temps pour voir de quoi votre vie est remplie. Est-ce que vous êtes satisfait? De quoi votre vie est remplie? Où est votre joie? Où est ta joie? Quelle en est la source? Est-ce que c'est juste des joies qui proviennent du fait que tu as bien mangé ou que tu as acheté les objets que tu voulais ou que tout le monde est gentil avec toi. C'est important de situer notre joie. Dieu va utiliser des personnes, des objets, des choses diverses pour te faire plaisir. Des choses dans la vie qui sont agréables. Mais ta joie ne doit pas en dépendre. Tu es d'accord avec ça? Elle ne doit pas en dépendre. Donc si tu as besoin d'un nouveau départ, il y a des choix que tu peux faire. Je pense à la vie de Joseph. Et dans Genèse, au chapitre 50 et au verset 20, il nous est dit « Vous aviez médité de me faire du mal, Dieu l'a changé en bien pour accomplir ce qui arrive aujourd'hui pour sauver la vie à un peuple nombreux. » Moi, je voudrais saluer ici cette capacité de Joseph, c'est vraiment quelque chose d'extraordinaire, de voir les choses à la lumière de ce que Dieu fait. Pas juste, il ne considère pas sa propre vie, ses sentiments blessés, combien il a été trahi par ses frères. Combien d'entre nous ont connu des déceptions, des trahisons? Tous, pensent tous à un moment ou un autre, nous avons eu des déceptions, des trahisons. Eh bien, la Bible nous dit qu'elle nous montre ces gens pour nous servir d'exemple. Il y a des exemples mauvais à ne pas imiter. Il y a des exemples qui sont bons. Moi, je dis, cet exemple de Joseph est remarquable. Alors, je ne voudrais pas qu'on fasse la mauvaise interprétation que Dieu est là au ciel en étant en train de dresser une espèce de plan machiavélique en se disant, ben voilà, alors comment je vais faire pour sauver mon peuple d'Israël, d'Égypte? Donc, je vais faire en sorte qu'il y en ait un qui soit trahi. Ensuite, il va de nouveau délivrer tout le monde et puis... Je ne crois pas que ce soit comme ça. Je crois que Dieu a un plan qui est bon et qu'il n'utilise pas le diable pour l'aider dans ses plans. Quand les frères de Joseph ont voulu tuer Joseph, ce n'est pas Dieu qui leur a donné l'idée. Il leur a pas dit, allez-y, parce que d'abord ils voulaient le tuer, hein. Ils voulaient pas le vendre. C'était pas leur idée, on va vendre Joseph pour se faire de l'argent. L'idée c'était de tuer Joseph. Or, Joseph était déjà, aux yeux de Dieu, celui qui devait être l'instrument de délivrance. Et c'est Dieu qui a influencé un des frères pour dire, ne le tuez pas, c'est notre frère. Vous vous rappelez? Il y a eu deux frères qui tout de même sont intervenus pour aider Joseph. Il y avait Ruben et il y avait Judas. Les deux ont voulu l'aider, mais ils ne sont pas allés jusqu'au bout. Il y avait quand même la pression des autres. Alors, il y en avait un qui a dit, ne le tuez pas. Et la Bible nous dit il pensait plus tard le délivrer. Il n'a pas réussi dans son plan. Et puis sont venus ces marchands et ils ont dit plutôt que de tuer, on va le vendre. Mais donc, à l'origine, Dieu avait donné des visions, des songes à Joseph qu'il serait utilisé. Joseph était jeune, ne savait pas encore comment gérer ça. Il avait des problèmes dans sa famille aussi. Son père n'avait pas une bonne attitude. Il avait fait de Joseph son favori. Ça avait créé des jalousies. Et tout cela ne venait pas de Dieu, vous êtes d'accord? Les jalousies, les problèmes entre frères ne viennent pas de Dieu. Et malgré tout cela, eh bien, Joseph a grandi avec Dieu. Il a grandi dans sa façon de voir et nous voyons qu'il a une maturité spirituelle extraordinaire ici. Mais Dieu est obligé d'employer des gens extraordinaires pour certains de ses desseins, mais nous pouvons, chacun d'entre nous, pouvons devenir quelqu'un d'extraordinaire. Vous aviez médité de me faire du mal, mais Dieu l'a changé en bien pour accomplir ce qui arrive aujourd'hui pour sauver la vie à un peuple nombreux. Et si vous avez cette vision que Dieu a un plan pour ma vie, on peut le dire ensemble, Dieu a un plan pour ma vie. Et Dieu va vous montrer comment, eh bien, il va utiliser des choses, même des choses négatives, même des choses qui étaient là pour vous détruire, pour que vous puissiez les surmonter, réussir là où c'était difficile. Je parle ici d'un domaine qui est particulièrement difficile, le domaine des relations. Et les relations entre frères, eh bien, on peut l'appliquer facilement. Relations entre frères et sœurs en Christ. Eh bien, de voir que même s'il y a des jalousies, même s'il y a de la haine, ben ça existe hélas, eh bien de voir que même si on médite du mal contre moi, Si je m'applique à marcher avec Dieu, Dieu va le changer en bien. Dieu va faire réellement, comme Romains 8, 28 le dit, il va faire concourir pour mon bien toutes choses. Croyez ça? Moi je le crois. Je crois que nous pouvons réagir en n'acceptant pas de rendre le mal qui nous est fait. Il y a même du mal que nous ignorons. J'ai encore lu dans les psaumes récemment, il était dit que dans le psaume 31, verset 21, « Tu les protèges sous l'abri de ta face contre ceux qui les persécutent. Tu les protèges dans ta tente contre les langues qui les attaquent. » Il y a peut-être des langues qui vous attaquent directement, des fois, des gens qui vous agressent, qui vous critiquent. Mais des fois, il y a aussi des langues, on ne sait pas. Alors, on ne va pas s'en occuper, on ne va pas s'en inquiéter. Mais on va dire, Seigneur, c'est toi qui nous protèges. Et il y a une dimension encore plus grande. Dans Ésaïe 54, il nous est dit, toute langue qui s'élèvera contre toi en justice, tu la condamneras. Donc, nous refusons les malédictions qui sont contre nous, mais nous croyons qu'au contraire, quand nous demeurons intègres dans notre position avec Dieu, eh bien, il va faire concourir toutes choses pour notre bien. Il va même les choses qui étaient destinées à nous détruire, eh bien, ça sera une occasion pour nous de manifester une fois de plus la victoire du bien sur le mal, de Jésus sur Satan, de la vie sur la mort. Donc, chaque journée est une nouvelle promesse, un nouveau commencement. Chaque instant avec Dieu, tu peux faire un nouveau départ. Si tu as besoin ce matin, alors décide. Dis, Seigneur, je veux faire un bon choix. Je veux renoncer à certaines choses. Je veux maintenant que tu m'aides pour que je puisse repartir du bon pied. Je vais demander, Seigneur, que tu fasses un miracle, que tu restaures une relation, que tu agisses dans ma santé ou ailleurs. D'ailleurs, en ce qui concerne la santé, je crois que la santé est beaucoup en rapport avec l'âme. Je l'ai déjà dit, mais je répète. Quand la Bible dit « Je souhaite que tu prospères à tous égards et sois en bonne santé comme prospère l'état de ton âme », on ne peut pas constamment supplier Dieu de guérir notre corps quand notre âme est malade, parce qu'il y aura forcément des effets. Donc, je suis très préoccupé en ce moment du salut des âmes, du salut de nos âmes à tous et de la bonne santé de notre âme. Alors, j'espère que vous aussi prenez soin de votre âme. Alors, on va terminer en priant. Vous pouvez vous lever avec moi. Seigneur, je demande maintenant, Père, dans le nom de Jésus, que tu influences et imprimes dans l'esprit de mes frères et sœurs ce désir et cette volonté qui est la tienne de sauver parfaitement chacune de notre âme, d'avoir notre intelligence renouvelée, d'avoir nos émotions, nos sentiments guéris, de voir que quel que soit le mal qui nous a été fait, quelles que soient les ruses du diable dans le passé, eh bien, nous ne voulons pas maintenant qu'à cause du passé, notre avenir soit compromis. Nous avons un futur que nous ne connaissons pas, que tu connais, mais nous voulons que ce futur, eh bien, soit glorieux. Nous voulons que les promesses que tu as pour nous, l'espoir que tu as mis en nous, eh bien, les choses puissent se réaliser. Alors nous disons, Seigneur, tu nous aides maintenant à appliquer ta parole, à dire, bien, je ferai les changements qu'il faut, je donnerai les pardons qu'il faut, je permettrai à ma bouche de prononcer des paroles de grâce, de bénédiction, je veux aussi oublier ce qui doit être oublié, je veux m'attacher quand il faut s'attacher, je veux m'engager là où il faut m'engager, je veux honorer aussi ceux qui doivent recevoir de l'honneur, que ce soit le pasteur, que ce soit les parents, que ce soit d'autres personnes. Et je te demandais, Seigneur, de créer en moi la faim et la soif d'entendre tes paroles, entendre Dieu me parler. Amen. Donc que chaque journée, vous ayez cette occasion de parler à Dieu et que Dieu vous parle. Et prenez du temps jusqu'à ce que vous soyez sûr que Dieu vous a parlé. Il veut vous parler, il est le Dieu vivant, il est vivant. Il n'est pas en sommeil quelque part, il n'est pas absent. Il est là et il veut vous parler aujourd'hui. Je pense qu'il l'a déjà fait au travers de ce que nous avons vécu ensemble ce matin. Mais il y a des choses tout à fait personnelles qu'il va encore faire. Alors, bonne semaine à tous, bonne rentrée. Et donc, voyez devant le Seigneur aussi quelle part vous devez prendre. Il y a toujours des choses à faire aussi pour l'accueil quand nous avons nos séminaires, et de voir ce que vous pouvez faire.